C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur?
Il y a
les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboires?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale de Canal B, diffusée 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi de 12h15 à 12h45, et en rediffusion les mardis, jeudi et samedi, le matin à 8h15. C'est votre nouveau rendez-vous d'information et d'actualité locale à Rennes et en Ille-et-Vilaine. Et peu importe où vous êtes et ce que vous faites, il vous concerne pour peu que vous aimiez les questions de société. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission et pour cette première édition, nous vous proposons une plongée dans le quotidien de ces personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap dans nos écoles, les AESH, car fin septembre, 25 AESH ont été licenciés d'un coup d'un seul en Ille-et-Vilaine. On parle de ce licenciement et des raisons qui y ont mené avec la secrétaire déléguée du syndicat FSUSNU-IPP, le syndicat national unitaire des instituteurs et institutrices, juste après le témoignage d'un jeune AESH exerçant dans le département. Mais pour commencer, place à notre info du jour, et une fois n'est pas coutume, elle concerne la radio. C'est une belle couverture bleue sur laquelle une Marianne, le visage tourné vers le haut, est dessinée. En bas à droite, un petit 2026, en bleu lui aussi. Mais ce n'est pas d'un tableau dont il est question, un tableau d'une Marianne partant au combat pour défendre la démocratie. Le bleu évoque plutôt une des couleurs utilisées par le gouvernement dans sa communication. Et le document en question est une partie de l'annexe au projet de loi de finances pour 2026 qui concerne les médias, le livre et les industries culturelles. Cette annexe fait partie du projet de loi de finances 2026 présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu mardi 14 octobre, donc la semaine dernière, à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on y lit est édifiant. Il y est question en 2026 d'une baisse de 44% par rapport à l'année précédente du FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Derrière cet acronyme un peu barbare se cache la principale source de financement des radios associatives et locales en France. La réduction proposée par le gouvernement ferait passer le fonds de 35 à 19 millions d'euros. Alors oui, des millions, ça peut paraître beaucoup, mais ces centaines de radios associatives et locales, car elles sont plus de 750 sur le territoire français, elles émettent en zone urbaine, périurbaine, rurale ou en montagne, et elles ont surtout une utilité sociale de premier plan. Elles donnent la parole à celles et ceux à qui les médias nationaux ne la donnent pas. Elles font parler de nos festivals, nos artistes et acteurs associatifs locaux. Elles sont un espace d'apprentissage pour les bénévoles, un espace collectif où la responsabilité se partage et s'apprend, et donc un espace qui fait vivre la cohésion sociale. Elles peuvent faire vivre et revivre les langues locales, comme c'est le cas en Bretagne. Enfin, elles portent des projets socio-éducatifs et culturels, entre autres via les ateliers d'éducation aux médias qu'elles proposent à tout type d'acteurs, mais aussi en diffusant des savoirs scientifiques à leur antenne. Pour finir, ce sont des lieux d'émancipation accessibles à tous et toutes, et faut-il le rappeler, elles font tout cela dans un but non lucratif. Pour en revenir à la baisse proposée du FSER, si un tel niveau de financement était validé par les parlementaires, ce serait un réel cataclysme pour ce réseau de radios associatives dont certaines pourraient disparaître. D'après le syndicat national des radios libres, cette baisse de financement mettrait en péril 80% des emplois du secteur. L'année dernière, à la même période, le projet de loi de finances 2025 prévoyait une baisse de 35% de ce fonds. Une mobilisation avait permis de l'éviter, mais cette année, la baisse de 44% proposée tombe une deuxième fois comme un couperet. Canal B vous propose ce matin, dans la première partie de 3 en 1, de rentrer dans le détail de ce sujet. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que cette coupe drastique signifie pour les radios associatives? Comment cela va impacter les auditeurs et auditrices, les salariés, les acteurs du territoire et leur expression démocratique? Pour comprendre cela, on écoute Sylvain Delfaux, président du syndicat national des radios libres, interviewé par Clément, notre confrère de Radio Boa.
Bonjour Sylvain et bienvenue.
Bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous.
Pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qu'est le FSER et à quoi il sert concrètement pour les radios?
Le FSER, en fait, c'est une dotation de l'État, donc du ministère de la Culture, pour faire vivre les radios associatives dans les territoires, donc en métropole et aussi en Outre-mer. Le deal de départ, c'est vous avez une mission de communication sociale de proximité, donc le pluralisme dans les territoires. Ça, c'est la mission de base. En même temps, vous n'avez pas accès au marché publicitaire, donc on n'a pas le droit de faire de publicité de plus de 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, le deal de départ, c'est... pour faire cette mission, et comme vous pouvez pas faire de pub, on vous donne une dotation. Voilà, ça fait presque 40 ans que ça existe comme ça. Et donc, ça nous permet, nous, derrière, tout simplement de payer des salariés, ces salariés qui accueillent des bénévoles, ces bénévoles qui invitent des gens, des gens qui n'ont pas forcément accès à d'autres médias que ces médias dans ces territoires. Et donc, ça permet d'être la voix des territoires, que ce soit dans les quartiers, dans les villes, que ce soit dans les zones rurales. On est le pluralisme en France.
Quelle part représente justement cette subvention FSER pour une radio locale ?
Non seulement c'est une part importante, c'est entre 40 et 60%, on va dire que c'est la moitié du budget d'une radio associative, donc ça va dépendre des radios, des projets, des territoires, mais c'est une moyenne, hein, une moyenne ça veut rien dire quelque part, mais c'est en moyenne 50%. Ce socle permet un petit peu de pouvoir travailler et d'aller chercher d'autres financements, de faire d'autres actions pour pouvoir justement financer les salaires et le matériel et tout ce qui les frais généraux dans une association.
Qu'est-ce que cette baisse aurait comme effet direct, immédiat pour les radios associatives, Sylvain ?
Le silence, le budget du silence, on l'appelle nous. Là, Clément, en fait, vous seriez à un autre endroit, parce que en fait, l'argent qu'on reçoit, c'est pas, on a l'impression que les gens pensent qu'on est les radios des années 70, on fait je sais pas quoi avec. Mais non, en fait, vous, Clément. Vous avez un bac plus 2 radio. Vous avez un diplôme de la radio. C'est pas, on l'a pas sorti de n'importe où. Et vous êtes formé pour ça. Tous les gens dans les radios sont aujourd'hui formés. On est des professionnels. On est des professionnels et on accompagne des bénévoles. On accompagne la langue. On accompagne des projets culturels, des projets d'économie sociale et solidaire, des entreprises, des artisans. On leur laisse la parole. En fait, ça sert à ça. Ça sert à tendre le micro. Mais si on n'a pas des professionnels, on peut plus faire ça. Donc, en fait, là, vous me poseriez pas de questions. On serait pas derrière. Et en fait, il y aurait un paquet de gens qui ont envie de parler parce qu'en fait, ils ne sont pas représentés dans les médias habituellement. Quand on regarde la télé, ça ne représente pas la France, ça ne représente pas les quartiers, ça ne représente pas les zones rurales. Mais par contre, nous, on représente la vraie France.
Donc, c'est des emplois, c'est des bénévoles qui n'auront plus accès donc, au micro, c'est peut-être aussi même des radios associatives qui disparaissent du paysage.
Ah non, mais là, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. C'est un cataclysme, en fait. Si demain, ce fonds de soutien à l'expansion radiophonique est amputé de la moitié de son budget, il y a énormément de radios qui fermeront. Et c'est le secteur de la radio, c'est le média radio qui est attaqué.
Vous venez d'écouter Sylvain Delfaux, président du Syndicat national des radios libres, au micro de Radio Boa. Vous pouvez également retrouver des chiffres et exemples sur l'utilité sociale des radios locales associatives de Bretagne dans le rapport du même nom publié par la CORLAB, la coordination des radios associatives et locales de Bretagne. De retour en plateau pour cette deuxième partie d'émission avec Lola qui nous a rejoint. Bonjour Lola.
Bonjour Nina.
Et ce n'est pas parce que nous sommes au début des vacances scolaires qu'on ne peut pas parler d'école.
Et au contraire, aujourd'hui je vous propose de vous mettre dans la peau des accompagnantes d'élèves en situation de handicap, les AESH, auparavant appelées AVS, assistantes de vie scolaire. Leur travail, c'est de passer leur journée auprès d'élèves ayant certains handicaps, atteints de troubles autistiques, de troubles du comportement ou encore handicapés moteurs. Sans elles et sans eux, ces élèves ne pourraient pas participer à la vie en classe. Alors malgré l'importance de leur métier pour le bon fonctionnement de l'éducation nationale, les AESH sont très peu reconnus, souvent à temps partiel et rémunérés en moyenne 900 euros par mois.
Et pourquoi les élèves dont il est question ne sont pas inscrits dans des établissements spécialisés alors ?
Tout simplement parce qu'il n'y a plus de place. Les services d'accueil médicaux spécialisés comme les IME, instituts médicaux éducatifs, et les ITEP, instituts thérapeutiques et éducatifs, sont saturés. Aujourd'hui en France, donc, si votre enfant a un handicap, il devra aller dans un établissement scolaire non spécialisé.
C'est donc pour ça que l'on retrouve 132 000 AESH qui sont répartis dans plus de 80 000 classes, dans des établissements privés et publics sur tout le territoire. Et alors pourquoi on en parle aujourd'hui spécifiquement ?
Parce que le 30 septembre dernier, sur les 1360 AESH que compte le département d'Ille-et-Vilaine, 25 ont été licenciés pour la même raison. Ils ont refusé de signer un avenant à leur contrat qui les aurait obligés à se déplacer sur un périmètre plus vaste.
On en parlera juste après avec Emmanuelle Marais, la secrétaire déléguée du syndicat FSU-SNU-IPP, le syndicat national unitaire des instituteurs et institutrices qui représente également les AESH.
Pour commencer, je vous propose d'écouter le témoignage de Georges. Georges, il a 25 ans, il est AESH dans un collège de Rennes classé REP+, c'est-à-dire une zone d'éducation prioritaire. C'est un ancien travailleur social et il a fait sa toute première rentrée en septembre en tant qu'AESH.
Je m'appelle Georges et je suis AESH depuis janvier 2025. Pour la rentrée, du coup, en effet, j'avais pas de référentiel. Ce qui a été le plus compliqué, c'était au niveau des emplois du temps. On a mis 2 semaines avant d'avoir un emploi du temps fixé, mais parce qu'il y a eu des changements au niveau de la direction. Il y a beaucoup de faisant fonction à l'éducation nationale. C'est quelque chose que je connaissais pas venant du privé plutôt. Pour moi, il faut une vraie discussion en fait autour de ce qu'on met vis-à-vis des AESH. Et c'est des concertations qu'on doit avoir avec d'autres corps de l'éducation nationale, les enseignants, les AED, les services de vie scolaire, etc. Je pense que il faut qu'on puisse définir en fait les missions en ayant déjà dressé un portrait de tout ce qui peut se passer, des fermetures d'ITEP, du manque de place en IME, de l'impossibilité d'évoluer, du temps devant élève, du temps dehors. Il y a la question d'avoir beaucoup d'outils. À un moment donné, si personne s'en saisit, autant ne pas avoir d'outils en fait, mais se le dire clairement, on est dépassé par la situation. L'école inclusive, on peut la nommer en acte, en ce qu'on veut. Concrètement, qu'est-ce qui se passe, ne serait-ce que pour nos élèves? Et il y a aussi la question de la mutualisation. C'est juste ingérable là pour le coup. La mutualisation, du coup, ça va être très souvent des élèves qui seront dans les mêmes classes et qu'auront un temps d'accompagnement moindre. Et ces élèves-là, en fait, donc on les met dans les mêmes classes, etc. Et donc moi, en tant qu'AESH, je suis censé être, par exemple, entre 2 élèves, mais on sait 3 élèves. Et sauf qu'en fait, c'est 2 situations tout à fait différentes. Et donc, il n'y a pas la possibilité, à la fois, quand il y en a un qui a un problème de graphie, de prendre le cours, et à la fois, quand il y en a à côté de nous, il y a un autre élève qui, lui, va pas avoir de problème de graphie, mais va plutôt avoir un problème de compréhension. Faut réussir à jongler entre les deux, et en fait, très vite, ça peut tomber dans le bricolage. On a l'impression de faire ce qu'on peut, mais il n'y a pas de cohérence dans nos actes. Il n'y a pas la possibilité d'intervenir autant de fois qu'on veut. C'est en fait des postures dans lesquelles on est plongé, mais qui relèvent pas du tout de notre volonté de travailler ou d'accompagner, notre manière de faire. On n'a pas la prime REP, qui est quand même pas méprisable. Enfin, c'est hyper important pour nos salaires, donc pareil, cette prime REP, normalement, elle devrait tomber soit à la fin du mois d'octobre, soit à la fin du mois de novembre, mais en tout cas, il n'y a pas de certitude là-dessus. Il y a la prime REP et il y a aussi la prime REP Plus. Donc il y a très peu d'établissements REP Plus, surtout dans le second degré en Bretagne. Je sais pas pour ce qui est de la prime REP, mais pour ce qui est de la prime REP plus, en tout cas, elle est calculée sur le temps de présence aussi. Moi, j'ai un contrat 24 heures semaine, donc elle est calculée sur ce taux de présence de 24 heures. Ça représente à peu près 110, 120 euros par mois. C'est beaucoup moins que les enseignants et les enseignantes. Ces primes REP là, elles sont pour moi, elles viennent aussi indemniser un effort qui n'est pas le même que dans un établissement dit ordinaire. On a certes 24 heures de présence sur notre établissement scolaire, mais en fait, toutes les problématiques annexes, ça va nous prendre du temps, que ce soit mentalement ou même physiquement, parce que du coup, on a des problématiques de situation de handicap qui peuvent être plus prenantes, tout simplement. On avait rencontré dans le cadre d'une mobilisation dans notre établissement le directeur académique qui le disait lui-même qu'en fait il y avait trop d'AESH en Bretagne. Le fait est que voilà, c'est complètement déconnecté du terrain, parce que la mission d'AESH, c'est la mission principale, en tout cas ils le disent dans toutes les formations, c'est l'autonomisation de l'élève. Et donc quand on fait bien son travail, l'idée c'est qu'en fait on n'ait plus besoin de nous. Donc en effet, je vois pas comment il peut y avoir trop d'AESH, parce que dans les faits, il y a toujours besoin de nous. Ouais, c'est du mépris en fait.
On le comprend en écoutant Georges, le métier d'AESH est complexe, il a l'air éreintant et la situation ne semble pas du tout en passe de s'améliorer. Fin septembre, 25 AESH exerçant en Ille-et-Vilaine ont été licenciés car ils et elles ont refusé de signer un avenant à leur contrat qui aurait étendu leur zone d'intervention.
Même si une règle tacite est censée limiter leur déplacement à 20 km du lieu de rattachement, certaines AESH sont obligées de parcourir plus de 70 km par jour. C'est le cas de celles et ceux qui travaillent dans la zone de Redon, par exemple. Et ce n'est pas un détail, puisque ces kilomètres parcourus ne leur sont pas remboursés.
Et ce qui a provoqué ce changement dans le contrat de ces 25 AESH brétiliens et brétiliennes, c'est la modification de la carte de leur secteur de rattachement. C'est un peu l'équivalent de la carte scolaire des AESH.
Exactement ça. Les AESH sont rattachés à des PIAL, des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui déterminent leur zone d'affectation. En cette rentrée 2025, la carte des PIAL d'Ille-et-Vilaine a été modifiée. On est passé de 47 à 19 PIAL dans le département.
Et on comprend donc pourquoi les zones d'intervention des AESH en ont été agrandies. On en parle tout de suite avec la secrétaire déléguée du syndicat FSU SNU IPP, le syndicat national unitaire des instituteurs et institutrices qui compte 53 000 adhérents et adhérentes en France et qui représente également les AESH.
Emmanuel Marais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire départementale de la FSU SNU IPP, donc la Fédération syndicale unitaire des enseignants du premier degré.
Oui, tout à fait.
Alors, pour commencer, par qui la carte des pôles inclusifs d'accompagnement localisé a été modifiée ?
Alors, elle a été modifiée par, à la demande du rectorat par la direction académique de l'éducation nationale de l'Ille-et-Vilaine. Et puis, donc, c'est la même chose dans l'ensemble des départements. Cette modification est en amont de la transformation des PIAL en PASS, en pôle d'appui à la scolarité.
D'accord. Donc, c'est pourquoi cette carte a été modifiée.
Tout à fait.
La création de, ouais, de PASS. D'accord. Est-ce que cette modification de la carte, elle était prévue ?
On s'y attendait, en fait. On s'y attendait. L'idée de cette modification, c'est pour essayer de rendre plus efficient l'accompagnement des élèves. Donc, dans les faits, effectivement, les AESH pourraient être amenés à faire de longues distances. Enfin, en tout cas dans les textes, mais dans les faits, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'informations comme quoi des AESH faisaient des distances importantes.
Okay, donc ça changerait quoi, la distance pour les AESH, mais concrètement ça changerait peut-être quelque chose d'autre ?
Ben, en fait, en leur demandant de faire une plus grande distance, ils utilisent leur véhicule personnel et les kilomètres ne sont pas indemnisés. Ils n'ont pas de frais de déplacement. Donc, sachant qu'ils ont déjà un salaire qu'on va appeler un salaire de misère, en fait, c'est compliqué pour eux de faire de longs déplacements puisque c'est à leurs frais.
Et vous, en tant que syndicat, comment vous analysez cette modification de la carte ?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. La modification jusqu'à présent n'a pas entraîné le fait que des AESH fassent des distances plus longues qu'avant. On est extrêmement vigilant à ça, en fait. Je pense que c'est dans l'intérêt de personne de leur faire faire des longues distances, puisque ça risque de les amener vers la démission ou l'abandon, en fait, de ces missions-là, en fait.
Okay. Et si on revient sur ces 25 personnes qui ont été licenciées, elles l'ont été car elles ont refusé de signer l'avenant à leur contrat qui prévoyait, donc je le rappelle, l'élargissement de la zone d'intervention et d'affectation. C'est bien ça ?
Oui.
Ouais. Donc c'est l'unique raison pour laquelle ces personnes ont démissionné ?
Alors, c'était l'appréhension de se voir faire faire plus de distance. Et pour certaines, alors je vais féminisées puisque ce sont majoritairement des femmes, puisque certaines d'entre elles appréhendaient et puis avaient peut-être aussi déjà dans la tête l'idée de démissionner. En refusant de signer l'avenant, elles sont donc licenciées et en étant licenciées, elles ont touché des indemnités en fait et ont le droit au chômage. Alors que si elles avaient démissionné, elles n'auraient pas pu bénéficier de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout leurs conditions de travail et leurs conditions de salaire qui les amènent à démissionner. Leur mission est extrêmement difficile. La peur d'avoir à faire des grandes distances a été pour certaines d'entre elles difficile à avaler et on les comprend. En fait, on défend vraiment le fait qu'elles puissent avoir un statut et un salaire digne, en fait.
Alors, il faut savoir que cette modification de leur contrat, donc cet avenant, il est tout à fait légal. Qu'est-ce que cette possibilité de modification soudaine de ces contrats, elle illustre de la situation des AESH en France ?
La précarité. Leur précarité. Ce que je disais tout de suite, elles vivent c'est un travail très difficile. C'est un travail pour lequel elles n'ont pas eu ou très peu de formation. Et elles ont vraiment des conditions d'accompagnement difficiles. Elles vivent auprès de certains enfants, parfois elles subissent de la violence. Enfin voilà. Et comme elles n'ont pas la reconnaissance salariale, c'est vraiment compliqué pour elles de se dire, d'accepter de travailler dans ces conditions-là, avec si peu de salaire. Et donc la peur d'avoir à faire des distances a été pour certaines l'élément déclencheur de pas signer l'avenant en fait.
Alors, du coup, comment vous, au FSU SNUIPP, vous accompagnez ces personnes qui sont licenciées et qui ont, vous le dites dans votre communiqué de presse, subi une pression de la part de l'Académie ?
Alors, la pression subie, c'est parce qu'on leur a imposé de signer cet avenant. Comment on les accompagne ? On les accompagne dans leur entretien de licenciement, en fait. Et puis, d'une manière plus générale, au niveau national, la FSU SNUIPP revendique et défend un salaire digne pour les AESH, une reconnaissance de leur statut, et puis une formation. Ce que je disais tout à l'heure, on ne s'improvise pas à AESH. Elles entrent dans le métier en accompagnant parfois des enfants qui peuvent être violents. C'est pas le fait, enfin voilà, pas de leur fait, hein, mais qui peuvent être violents et elles ne sont pas formées pour apprendre à éviter parfois certaines crises. Il y a des enfants, il faut juste savoir les prendre, avoir appris connaissance de leurs troubles pour pouvoir les accompagner. Et bien souvent, on les envoie dans des écoles sans même avoir abordé aucune notion du handicap, en fait. Donc c'est très complexe.
Vous parlez d'ailleurs, donc je reviens sur le communiqué d'où découle cette question. Dans ce même communiqué, vous parlez de nouvelles pressions subies par les AESH, donc de cet avenant. Est-ce qu'il y a eu d'autres pressions auparavant ? Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple,
Les pressions, elles sont dans le manque de considération, en fait. Parfois, on les nomme pour accompagner un enfant, et puis parce que, ou plusieurs enfants, parce qu'elles peuvent accompagner plusieurs enfants. Parfois sur une seule école, et puis il se trouve que dans une autre école il y a des besoins urgents, donc on va les mettre à accompagner un enfant dans ces autres écoles sans même s'inquiéter de savoir ce qu'elles en pensent, sans même prendre en considération l'investissement qu'elles ont pu mettre dans l'accompagnement, les premiers accompagnements. Donc c'est vécu comme de la pression, en fait. Elles ne peuvent pas refuser d'aller sur l'école voisine ou de faire un accompagnement sur une situation un peu plus difficile pour lesquelles il n'y a pas d'accompagnement. Donc cette pression, elle existe à ce niveau-là, en fait. Et on leur demande jamais leur avis.
Alors, il y a un autre sujet sur lequel votre syndicat a communiqué dernièrement, ce sont les indemnités REP, REP+, donc des zones d'éducation prioritaires. Qu'est-ce que cela représente ?
Alors, avant, les enseignants qui travaillent en REP ou REP+, ont une prime. Les AESH travaillant en REP ou REP+, ayant les mêmes conditions de travail, ne bénéficiaient pas de cette prime. Donc, il y a eu des procédures et le Conseil d'État a fini par reconnaître qu'il était tout aussi légitime que les enseignants que les AESH perçoivent les primes, en fait. Donc, le Conseil d'État s'étant prononcé ainsi, nous demandons aujourd'hui à la direction académique d'Ille-et-Vilaine et au rectorat de procéder au versement de ces indemnités et de manière rétroactive, en fait. Ouais.
Donc ces indemnités-là qui n'ont pas été perçues par les AESH REP+, c'est entre 2015 et 2022,
ouais.
C'est ça ?
Oui.
Ouais. Ouais. Alors, donc, comme vous l'avez expliqué, le Conseil d'État du 16 juillet 2025, il oblige le versement d'une compensation REP+, due aux AESH donc pour la période de septembre 2015 à décembre 2022. Vous avez par la suite été reçu au ministère le 30 septembre dernier, où vous avez demandé que ces indemnisations soient perçues justement rapidement par les AESH concernés. Est-ce que vous vous êtes senti écouté par les autorités ?
Senti écouté, pas forcément. Maintenant, on a les AESH et donc syndicalement, on avait la loi avec nous, en fait, puisque cette décision du Conseil d'État s'imposait. Donc l'idée, c'était de réussir à obtenir le fait que ces compensations soient versées au plus vite. Ça peut représenter quelques milliers d'euros pour certaines d'entre elles.
Alors, du coup, quelles sont les autres indemnisations ou prochaines avancées importantes en cours de négociation actuellement avec les autorités ?
Alors, on négocie toujours un statut pour les AESH. On négocie toujours une reconnaissance salariale, en fait, un salaire pour qu'elles puissent se reconnaître et surtout rester auprès de nous. Parce que, voilà, en tant qu'enseignante, on a besoin d'elles. C'est, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans elles, la classe, en fait. Donc, le combat actuel au niveau national, c'est vraiment de les faire reconnaître, de faire reconnaître leur statut et qu'elles puissent bénéficier d'une augmentation de salaire.
Ok. Alors, moi, avant l'interview, je me suis entretenue avec un AESH, Georges. Il travaille en zone REP+, à Rennes. Et selon lui, en tout cas, ce qu'il me partage, c'est que la priorité, donc selon lui, pour améliorer ses conditions de travail, ce serait la rémunération du travail préparatoire des AESH, c'est-à-dire de payer le temps de travail hors classe des AESH, au même titre que les enseignants, pendant lequel ils, elles, préparent les supports, les outils de suivi pour les élèves, etc. De votre point de vue de syndicat, est-ce que c'est possible, cette rémunération ?
Ça devrait l'être, en fait, ça devrait l'être. On se bat, effectivement, quand on dit une meilleure reconnaissance salariale, c'est ça, c'est prendre en compte le travail, du coup, je vais dire, qu'ils et elles font, enfin, parce que ça n'est pas que l'accompagnement en classe. Quand on est auprès d'un élève, il faut apprendre à le connaître, il faut effectivement adapter les supports, il faut passer du temps parfois à échanger avec les enseignants et les enseignantes, et tout ce temps de travail est pas ou très peu reconnu. Nous, les enseignants et les enseignantes, on peut le reconnaître, mais en tout cas l'administration ne le reconnaît pas. Donc il serait juste que ce temps de travail soit reconnu comme l'est reconnu celui des enseignants et des enseignantes, en fait.
Alors merci Emmanuel Marais d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Canal B. Je le rappelle, vous êtes secrétaire départemental de la FSU SNUI PP, donc la Fédération syndicale unitaire des enseignants du premier degré. Que leur temps de travail soit reconnu, mais aussi leur statut, c'est la dernière revendication en date du syndicat. Il appelle à la création d'un corps à part entière des AESH au sein de l'éducation nationale, au même titre que les enseignants ou encore les psychologues scolaires.
Merci beaucoup Lola et merci à nos invités d'avoir été avec nous sur le plateau de 3 en 1. Vous avez entendu Sylvain Delfaux, président du syndicat national des radios libres, interviewé par Radio Boa, mais aussi Georges, jeune AESH ayant accepté de témoigner au micro de Canal B, et Emmanuelle Marais, la secrétaire déléguée du syndicat FSUS NU IPP, syndicat national unitaire des institutrices et instituteurs en France. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui, c'était la première édition. On se retrouve mercredi à 12h15 pour la prochaine émission de 3 en 1.